politique américaine, Vincent Gosselin.
Et avec grand plaisir, je rejoins notre spécialiste de l'actualité américaine pour faire le point de la semaine. C'est Vincent Gosselin, tout de suite sur les ondes de choc. Bonjour Vincent.
Bonjour Monsieur Lorrain.
Avec aujourd'hui le bilan des 100 premiers jours que l'on tire déjà de l'administration Biden. Alors Vincent, quel bilan justement tirer?
On se souvient que Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche avec plusieurs gros défis, dont une pandémie à gérer. Et une des promesses phares de Joe Biden était son plan de 100 jours. Pour les 100 premiers jours de sa présidence, il voulait livrer 100 millions de vaccins. Eh bien, oui, il a livré la marchandise, mais beaucoup plus, parce qu'en 100 jours, parce qu'il atteint les 100 jours de présidence cette semaine, il a livré 200 millions de vaccins aux Américains. Donc, il a dépassé beaucoup plus que ce qui avait été prévu. Mais une autre de ses grandes victoires, ça a été le plan de 1,9 trillion de relance économique et de gestion de pandémie qui est passé au Congrès, sa première grande victoire législative. Et c'est tout un plan quand même de relance. En ce moment, il est à travailler son plan d'infrastructure pour investir massivement pour la création d'emplois. C'est un plan de 2 trillions de dollars, encore plus élevé que ce qui a été fait récemment. Alors, en ce moment, il est pris avec un autre gros dossier, le contrôle des armes à feu. Il a fait quelques ajustements, il a pris quelques mesures là au début du mois d'avril, mais on pense aussi à la hausse du passage irrégulier de migrants à la frontière avec le Mexique. Il refuse encore de qualifier ça de crise, ou du moins, il y va doucement là-dessus. Mais en matière de politique étrangère, Joe Biden, on se souvient, parce que la politique étrangère, c'est très important pour le président Biden, parce que lorsqu'il était sénateur, il avait été président de la commission des affaires étrangères du Sénat. Entre autres, on parle du retrait des troupes d'Afghanistan dès le 11 septembre prochain. Il a tenté une reprise de négociations pour le traité nucléaire avec l'Iran. Il a adopté un ton ferme avec la Chine et il confronte beaucoup aussi le président Vladimir Poutine avec peut-être un sommet à prévoir, là, je vous le disais il y a deux semaines. On verra bien cet été si tout ça va avoir lieu.
Voilà, alors, beaucoup d'actions, beaucoup de motifs de satisfaction, aussi bien en politique intérieure qu'à l'international. Qu'est-ce que disent les sondages actuellement par rapport à d'autres présidents, justement, en ce qui concerne les 100 premiers jours de Joe Biden?
Tous les grands médias avaient leur sondage à l'aube des 100 jours de la présidence. En moyenne, 55% des Américains approuvent le travail du président, alors que 41% le désapprouvent. Joe Biden s'illustre surtout pour sa gestion de la pandémie, où 69% des Américains qui ont répondu au sondage de NBC News disent qu'ils sont en faveur de sa gestion de la pandémie. L'économie aussi, il s'illustre quand même bien. 52% voient positivement sa gestion de l'économie, mais quand on regarde l'immigration, la sécurité à la frontière, le taux d'approbation est à 34-35%, pas plus. Donc, le taux d'approbation aux 100 premiers jours, qui est de 55%, c'est meilleur que ce que Donald Trump avait il y a 4 ans, avec 45%, mais c'est quand même assez inférieur à ce qu'avaient Barack Obama et George W. Bush. Obama était à 62%, Bush était à 63%. Mm-hmm. Donc, Joe Biden est à peu près dans la moyenne des derniers présidents américains. Et on va voir aussi son discours sur l'État de l'Union ce soir même, mercredi soir, pour voir comment il va expliquer aux Américains les mesures qu'il a prises et ce que ça signifie dans leur vie. C'est ce qu'il va expliquer ce soir.
En effet, c'est encore quelque chose que l'on va suivre de près. Alors, une des épines dans le pied de Joe Biden, c'est les problèmes migratoires, justement. Et d'immigration, il est question également avec un ouvrage qui fait parler de lui en ce moment, c'est celui d'un ancien président, George W. Bush.
Oui, le 43e président des États-Unis a publié la semaine dernière, le 20 avril, un livre qui est une collection de portraits et d'histoires d'immigrants qui sont arrivés aux États-Unis. Il peint lui-même les portraits et il a raconté les histoires de ces immigrants-là. Et pour faire la promotion de son livre, il a fait une tournée dans les médias. Et c'est différent, là. C'est pas son habitude de prendre la parole comme ça publiquement. Ouais. Il était plutôt discret là, depuis qu'il avait quitté en 2009. Mais là, il fait la promotion de son livre. Il prend position, entre autres, sur l'immigration. Il a dit en entrevue à NBC que le Parti républicain est devenu isolationniste, protectionniste et dans une certaine mesure nativiste. Et donc là, ça a fait beaucoup parler, cette déclaration-là. Il s'est ravisé un peu, là, il a pris un peu de distance sur ce qu'il a dit, mais il critique assez ouvertement le Parti républicain. Il appelle à prendre un ton et une approche différente en matière d'immigration. Et ce qu'on a appris aussi, c'est qu'il n'a pas voté pour Donald Trump ou Joe Biden. Il a plutôt mis le nom de son ancienne secrétaire d'État sur le bulletin présidentiel, parce qu'aux États-Unis, on peut ajouter un nom sur le bulletin de vote. Et donc, il prend la parole publiquement. Et vous savez, quand un ancien président parle, on l'écoute vu le prestige de la fonction et la personne qui l'a occupé pendant 8 ans. Donc, on écoute bien ce que dit George W. Bush en ce moment là, sur l'immigration. Ça fait pas son affaire, ce qui se passe en ce moment.
Eh oui, c'est une critique en creux, en effet, du Parti républicain. L'autre problème auquel font face les États-Unis en ce moment, un des autres grands problèmes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la question du contrôle des armes à feu qui revient encore une fois sur le devant de la scène. Et là, vous nous proposez peut-être justement de tirer des conclusions. Qu'est-ce que les États-Unis peuvent apprendre du Canada?
Oui, ben il y a un professeur associé de sociologie à l'Université de Toronto qui a écrit une lettre ouverte sur le site Internet de CNN et qui dit que oui, les États-Unis doivent apprendre du Canada en ce qui a trait au contrôle des armes à feu. Parce que je vous rappelle que depuis le 1er janvier seulement, il y a eu 147 tueries de masse aux États-Unis. Ah oui. Depuis le 16 mars, 45. C'est immense. Il y a un réel problème avec les armes à feu. Et ce que dit ce professeur-là, qui est d'origine américaine mais qui habite maintenant au Canada, il a beaucoup observé comment fonctionne l'accès aux armes à feu. Il dit que, premièrement, la vérification des antécédents est beaucoup mieux réalisée au Canada. On regarde davantage les antécédents de santé mentale, le casier judiciaire, etc. Mais surtout, le fait qu'on doive renouveler le permis d'armes à tous les 5 ans, ça joue un grand rôle dans le contrôle des armes à feu, parce qu'on garde un œil sur la vie des acheteurs. La vie évolue. Il y a plein d'événements qui peuvent entrer dans la vie d'une personne et la rendre inapte à posséder une arme à feu, alors qu'aux États-Unis, on regarde vaguement la vie avant l'achat, puis après, on s'en préoccupe plus tant que ça. Et c'est ça, ça lui fait dire que dans les derniers mois, on sait qu'il y a 3 tueries qui ont été réalisées avec des armes qui étaient obtenues légalement par le tireur. Oui. Malgré que dans 3 cas, là, Indianapolis, Boulder et Atlanta, la famille avait levé un drapeau en disant « Ben, le membre de notre famille a un problème de santé mentale, il a des antécédents, c'est peut-être pas justifié d'avoir une arme et ça pourrait être dangereux. » Et là, il s'est produit 3 tueries d'après ce qu'on sait, là, les informations qu'on a, d'après ce que les familles avaient dit et que les armes étaient légales. Donc, là, c'est la preuve comme quoi il y a un Américain qui vit vraiment au Canada, qui a pu observer le système et qui se rend compte que le système canadien remplit la majorité des objectifs. Ça peut être un modèle, même si c'est pas parfait, il le dit. Mais Joe Biden avait pris quelques mesures au début du mois d'avril. Quand on regarde le problème, c'est vu comme étant frileux, comme étant plus timide, modéré, mais même des mesures modérées sont audacieuses quand il vient le temps de les faire adopter au Congrès à cause du deuxième amendement. Les Américains y tiennent tellement que c'est très controversé lorsqu'on parle d'armes à feu. Les camps se campent très rapidement des deux côtés, et même du côté des démocrates, là, le contrôle des armes à feu, c'est pas un acquis non plus.
En effet, la solution risque de prendre du temps à être acceptée chez nos voisins. On finit avec une page plus légère, culturelle, en parlant bien des Oscars qui se sont tenus un petit peu plus discrètement cette année, pandémie oblige.
Exactement. Je mets la lumière sur un prix en particulier, c'est le meilleur réalisateur de l'année. Cette année, c'est la réalisatrice Chloé Zhao, jeune réalisatrice quand même 39 ans, qui a gagné l'Oscar de la meilleure réalisatrice et l'Oscar du meilleur film pour son long métrage Nomadland. Elle est la 2e femme seulement à être sacrée meilleure réalisatrice aux Oscars et la première chinoise à l'être, la première femme et non blanche finalement à être meilleure réalisatrice. Donc c'est un pas vers la diversité, vers la représentativité des minorités et des femmes aussi, parce qu'il faut souligner que dimanche, il y a eu 17 femmes qui sont reparties avec un trophée et 9 d'entre elles étaient non blanches. Donc c'est quand même un pas important. On voit que les mentalités changent dans le milieu du cinéma américain. Mais bon, il y a même, avec le film Nomadland, oui, la réalisatrice a été sacrée meilleure réalisatrice, mais aussi Frances McDormand, qui a eu la récompense de meilleure actrice. Ah ouais. C'est la preuve comme quoi on a brisé le plafond de verre à quelques reprises dimanche.
Féminisation et ouverture vers des personnes non blanches aux Oscars, c'est assez important pour être souligné. Merci beaucoup pour ce point d'actualité, toujours très passionnant pour nos voisins américains, avec Vincent Gosselin sur les ondes de Choc FM 105.1.
Merci beaucoup, bonne semaine.